France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Et ce matin, nous célébrons le plaisir d'écouter la musique d'un petit-fils d'immigré originaire d'Ukraine, installé aux États-Unis, Robert Zimmerman, né en 1941 dans le Minnesota, plus connu sous le nom de Bob Dylan, un garçon venu de nulle part qui débarque à l'âge de 20 ans à New York et qui est devenu l'une des montagnes sacrées de la musique. Célébration de l'art de Bob Dylan en compagnie du King Mishka Assayas. Et avec le boss, avec le journaliste Julien Bisson. Racontez-nous votre goût pour la musique de Bob Dylan, les souvenirs qui remontent à la surface au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Libraire au comptoir des mots à Paris, quel sera votre plaisir littéraire ?
Mon plaisir littéraire, alors là, pour le coup, c'est très très sombre. C'est un livre qui va explorer la noirceur de l'âme humaine. Un bouquin sorti en 66 qui vient d'être réédité aux éditions du Chemin de Fer. Je vous en dis pas plus pour le
Bonjour
moment.
Grégory Cohen.
Bonjour Ali Réveil.
Chef du One Place à Rungis, en pleine forme. Quelle est la recette à partager ce week-end ?
Bah, une poule qui a de la chance, donc une poule au pot.
Il fallait démarrer fort.
On enchaîne avec Aïda Ndiaye, bonjour.
Bonjour Ali.
Professeur de philosophie, productrice sur France Culture. Quel est le menu de votre chronique philo cette semaine en remplacement de Thibaut de Saint-Maurice ?
Eh bien, on va voir en quoi Bob Dylan est une petite larve deleuzienne et non, ce n'est pas une insulte.
Ça promet. Bonjour Guy Métodicino.
Bonjour Ali.
Journaliste à Télérama, qui deviendra notre ami ce vendredi ?
Eh bien, un trentenaire qui a un prénom qui ressemble beaucoup à celui de Dylan et qui met Dylan partout dans ses top 5.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Quand vous n'êtes pas linguiste à la Sorbonne, vous partagez votre savoir dans Avec la langue. Le menu ?
Eh bien, on va parler de la chanson Blowing in the Wind et comment elle a réussi à semer un vent de révolte malgré sa grande douceur. Non pas parce qu'il y a des centaines de jeunes hommes et femmes qui sont mis à courir après la voiture comme Mishka Assayas pourrait le raconter mieux que moi, mais en regardant les paroles.
Et vous êtes venu avec vos enfants très très sages.
Oui.
Hein, ils lisent, ils sont absolument...
Ils sont merveilleux.
Ils sont merveilleux. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi ?
Pour trouver l'inspiration.
If you go with snowflake storm, when the river's freezing, summer ends.
Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal.
Sort quand ton album ?
Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être.
Être quoi ?
Tout ce qu'ils veulent que je sois pas.
I'm war and peace, the truth just twists its curfew.
Extrait d'un parfait inconnu avec... de James Mangold avec Timothée Chalamet. Bonjour Mishka Assayas.
Bonjour Ali.
Voix familière des auditeurs de France Inter, producteur de l'émission Very Good Trip du lundi au jeudi à 21h, à qui l'on doit un indispensable dictionnaire du rock chez Bouquin Robert Laffont. Et vous venez de publier aux éditions GM et France Inter Very Good Dylan Trip. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Journaliste, directeur des rédactions du 1 Hebdo et de Légende, de la belle revue aux dimensions XXL. Et vous aviez consacré en janvier dernier un somptueux numéro à Bob Dylan disponible en librairie, alors que le nouveau numéro de Légende consacré à Simone de Beauvoir est vendu en ce moment en kiosque. Alors Mishka Assayas, vous avez 8 ans quand un jour d'ennui, vous glissez dans un manche-disque, un 45 tours Like a Rolling Stone,
oui,
rapporté par votre frère aîné,
oui,
et c'est plutôt la phase B, Gates of Eden, qu'on est en train d'écouter, qui vous obsède. Vous comprenez pas les paroles, mais
non,
la magie opère.
Oui, je sais pas, vous savez, c'est très mystérieux parce que dans cette époque très reculée où j'avais 8 ans, il n'y avait pas, si vous voulez, de présence de la musique dans le quotidien. C'est-à-dire que, surtout que moi je vivais dans un trou perdu, et donc entendre cette voix nasillarde... dont je ne savais rien, dans une langue dont je ne comprenais pas un mot. Allez savoir pourquoi. C'est comme, vous savez, c'est comme si on recevait un signal extraterrestre. C'était pour moi un extraterrestre. Et j'avais besoin d'être visité par des extraterrestres. Et Dylan en était un.
Voilà. Et vous écrivez que Dylan est le premier arbre de votre forêt musicale, oui, dont la cime surplombe toutes les autres voix.
Ah, c'est bien, comme c'est bien dit.
C'est poétique. Hein.
Bon, écoutez, oui, bah, on écrit des trucs parfois, mais je veux dire, oui, c'est vrai. Enfin, j'ai été conscient que sa présence dans le monde était essentielle, importante. Enfin, en tout cas pour moi et pour bien plein d'autres, et que j'étais tout petit par rapport à lui.
Je vous cite, montagne, oui. Je vous cite, Mishka Sayas, un parfait inconnu, une guitare, un harmonica, des paroles énigmatiques où vibre la douleur d'une interrogation politique et mystique à la fois, une voix bizarre, comme on n'en avait jamais entendu, il n'en fallait pas davantage pour créer un séisme il y a plus de 60 ans déjà.
Comme c'est admirablement dit.
C'est fou, j'ai bien écrit. Hein.
Subjugué.
Et pourquoi pourquoi Mishka Sayas, pourquoi le comparez-vous à une montagne?
Mais pour la
une montagne sacrée.
Oui, bah pour la raison que je tente de décrire, c'est-à-dire que on se sentait minuscule, mais lui aussi au fond. C'est-à-dire que ce qui est fort chez Dylan, c'est que Dylan n'est rien, il est personne. Vous savez, c'est comme David Bowie. Il ne vaut que par les fantasmes, les délires, les projections universelles et cosmiques qui le traversent. Donc c'est un poète. Donc il est traversé par des paroles. Vous savez, c'est un héros comme l'Énéide. Né n'est rien, mais c'est sa quête qui fait de lui un héros. Vous savez, il est traversé par des forces qui le dépassent.
Julien Bisson, vous avez consacré un numéro de légende à Bob Dylan. Avez-vous réussi à percer ce mystère, Bob Dylan ?
Alors, c'était tout le projet. On a créé Légende parce que dans le cas de Dylan, c'est exactement ça. On a des photos de Dylan et il faut écrire sa légende. Il faut écrire sa légende, c'est-à-dire essayer de comprendre qui est cet homme-là. Et c'est très compliqué parce que lui-même s'est acharné à brouiller les pistes depuis son enfance, depuis son arrivée à New York, où il a raconté qu'il était une espèce de gamin orphelin, élevé par un cirque. Il a essayé d'entretenir lui-même dès le départ sa propre légende, et dès qu'on a essayé de le mettre quelque part, il a essayé très rapidement de s'en aller. Donc c'est toujours très difficile d'arriver à le comprendre, mais à travers les pages, et puis notamment avec l'apport de Mishka, on a essayé justement d'arriver à voir quels pouvaient être les grands modèles auxquels il a voulu ressembler, de Woody Guthrie à d'autres, à James Dean, à Jack Kerouac, à Allen Ginsberg, tous ceux dont il a pu se nourrir comme une éponge, et puis essayer de comprendre aussi ce grand mystère qui est la longévité de Dylan. C'est-à-dire qu'on a aussi une image de Dylan qui est celle du Dylan des années 60, où il est jeune, adolescent, encore quasi adolescent, et où il débarque dans le monde de la chanson. Ce qui est fou, c'est qu'il est encore là. C'est qu'il est encore là et qu'il continue à faire des disques que, à part quelques Dylanolâtres, peu de monde encore écoute vraiment, en tout cas en France, et qui sont toujours aussi formidables.
Mishka ?
Ben écoutez, oui, c'est-à-dire que vous l'avez très bien dit, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut jamais demeurer là où on l'a assigné. C'est-à-dire qu'en effet, il s'est fait connaître dans ce petit monde de la chanson politiquement engagée pour les droits civiques aux États-Unis. Il était au grand rassemblement avec Martin Luther King, I Had a Dream. Il était là, il se tenait la main et tous, etc. Et puis, il a été désigné comme une espèce de porte-parole de ce combat, et il s'est dit mais non, je veux pas être embrigadé, je suis pas la porte-parole, d'ailleurs moi-même je suis complètement largué, donc ne comptez pas sur moi. Et c'est quelqu'un qui a tout le temps dit ne comptez pas sur moi, et ça c'est assez rare au fond, parce qu'en général les gens qui ont une mission, ils sont très fiers d'avoir une mission, et ils la conservent toute leur vie, ce qui n'est pas du tout son cas.
Julie Neveu.
Oui, et même dans son langage on voit qu'il a peur d'être figé, enfin ce qui fuit c'est n'importe quelle case, catégorisation qu'il figerait et qui empêcherait sa capacité à traverser justement par des inspirations poétiques qui sont toujours un ailleurs en fait. Donc dès qu'il arrive quelque part, il repart ailleurs en fait.
Mishka Sayas, le grand plaisir, sans sensorielle, intellectuelle, psychologique, spirituelle que nous procure la musique de Bob Dylan, c'est qu'il a compris et assimilé tous les styles de la musique populaire américaine.
Oui, alors ça c'est un point que je trouve très important de souligner, c'est que souvent vous lisez, vous entendez Bob Dylan, chanteur folk, etc.
C'est une étiquette qui vous agace un petit peu.
Oui, alors c'est pas que je me suis fait allumer par des gens parce que j'ai dit, mais écoutez, ça n'a aucun sens de dire qu'il est folk. Ben, bien sûr qu'il s'est fait connaître dans ce monde-là, mais enfin il faut savoir que quand il était dans son bled du Midwest, il a fait un groupe de rock'n'roll et son modèle c'était Little Richard ou Buddy Holly, qu'il a vu d'ailleurs sur scène avant. Bon, et donc en fait il est revenu très vite à ça parce que il s'est complètement réinventé justement parce que il a compris que les Beatles, les Stones et tous les Anglais en fait faisait revivre quelque chose qui lui appartenait, qui appartenait aux Américains. Et il s'est dit, on va se réapproprier tout ça. D'où, d'ailleurs, le titre de son album, Bringing It All Back Home, on rapporte tout ça à la maison.
Une autre idée reçue qui vous agace, Mishka, c'est le côté sérieux, tragique de ses paroles. Parce que l'œuvre de Dylan détient également un aspect comique.
Ah oui, oui, clairement. Bah, vous savez, il y a des chansons, en particulier dans l'album Highway 61 Revisited, où il y a des espèces de délires totalement loufoque, avec des personnages de cirque, des trapézistes, enfin c'est comme des tableaux surréalistes. Donc c'est des associations d'idées, des calembours, etc. Et puis un côté farceur chez Dylan.
Autre idée reçue, Julien Bisson, c'est quand on dit de Dylan que c'est un poète. Alors à ça, il répond, je n'aime pas le mot, je suis un trapéziste, voilà, poète, j'aimerais bien me considérer comme poète, mais à cause de tous les pleurnichards qu'on dit poète, je ne peux pas.
Non, je pense qu'en plus, il avait à la fois, ça témoigne à la fois de l'énorme respect qu'il avait envers les poètes, que ce soit les poètes de son époque, mais aussi il a un très grand respect pour la tradition de la poésie française. Arthur Rimbaud et Paul Verlaine sont quand même parmi les auteurs donc, qu'il va citer, où il va beaucoup puiser. Et puis, là encore, on retrouve sa volonté d'échapper aux étiquettes. C'est-à-dire que s'il devait être poète, alors il ne serait que poète. Alors que, justement, lui, il veut pouvoir jouer, il veut pouvoir faire des chansons loufoques, il veut pouvoir faire des petites ballades qui s'inspirent du folklore américain. Motor Psycho Nightmare, c'est une chanson aussi très drôle, où il raconte, il y a des choses très, très narratives. Et donc, du coup, il y a une volonté d'arriver à s'extraire de ça. Quand il reçoit le prix Nobel de littérature, c'est en effet pour, comme c'est les jurés du Nobel disent, pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques à l'intérieur de la grande tradition de la chanson américaine. Je suis pas sûr que ça lui ait plu, parce que justement, il y a quelque chose de très pesant, qui l'accroche au sol, alors que lui-même veut plus.
Julien a vraiment raison de souligner la légèreté de Dylan. Il est tout le temps décalé, c'est tout le temps un farceur, il se prend jamais vraiment au sérieux, en réalité. Et c'est pour ça qu'il est charmant, en fait. Et il n'est pas pesant.
Julie Neveu.
Oui, et l'étiquette de poète, de poésie, c'est vraiment la plus sacralisante des étiquettes. C'est celle qui va faire peser une sorte d'idolâtrie du mot. Or, il est à l'inverse de ça. Et d'ailleurs, son vocabulaire est très très simple et à la fois, il y a une forme un peu archaïsante britannique. C'est très bizarre. C'est une hybridation vraiment qui échappe à toute catégorie.
Dans un instant, on continue à explorer le plaisir d'écouter Bob Dylan. Mais avant ça, il est l'heure de retrouver le plaisir littéraire de Théodore Dillerin, libraire au Comptoir des mots à Paris. Alors Théodore, vous avez choisi Le Grand Scandale d'Hubert Gonnet qui vient d'être republié aux éditions du Chemin de Fer.
Absolument.
Très beau ça, les éditions du Chemin de Fer.
Ouais, c'est une maison d'édition qui existe depuis une petite vingtaine d'années je crois et qui fait vraiment un travail de réédition de grands textes, donc très très beau travail éditorial, il faut le souligner. Alors Le Grand Scandale d'Hubert Gonnet, on part d'un fait divers qui a eu lieu à Uruf, en Meurthe-et-Moselle dans les années 50, en décembre 56, un truc absolument sordide, une jeune fille disparaît, elle est enceinte jusqu'aux dents, on la cherche, des battues sont organisées, et on va la retrouver éventrée, morte, à côté d'elle, son bébé aussi. Voilà, je m'arrête là.
Sympa.
Sympa, on adore. Enjoy. L'enquête commence, et assez vite, on va en fait trouver le coupable, qui se trouve être le curé du village avec qui elle entretenait une relation. C'est lui le père de cet enfant à naître. Et on va l'arrêter et il va décider de garder le silence. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle s'est passée, c'est le fait divers. 10 ans plus tard, un écrivain, Hubert Gonnet, décide d'écrire cette histoire et d'écrire surtout les silences, parce que le curé, que ce soit pendant son interrogatoire, pendant le procès, pendant les années de prison qu'il a effectuées derrière jusqu'en 78 avant de se retirer dans un monastère, il est mort en 2010 hein, quand même, hein. Il a toujours conservé le silence, il a refusé d'en parler. Et donc Hubert Gonnet, 10 ans plus tard, publie chez Buchet-Chastel un énorme pavé de 400 pages où il va combler ses silences. Et comment ? Avec deux manuscrits. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce texte, c'est que c'est pas seulement l'histoire racontée, romantisée, parce qu'on est dans une fiction, hein, les noms des personnages, des lieux ont été changés, c'est que c'est un double manuscrit à lire simultanément. À savoir que sur la page de gauche, vous avez l'histoire, l'enquête, de manière très subjective à la troisième personne, on prend du recul, et sur la page de droite en regard, la longue confession du prêtre. Et donc on ne lit pas une page après l'autre, on saute un petit peu d'une page à l'autre, les paragraphes, ça a été très bien fait de manière à ce que ça se regarde et à ce qu'on saisisse toute la complexité de ce personnage. Donc ça demande une petite gymnastique de lecture, mais à laquelle on s'habitue, somme toute, assez rapidement. Je vous ai juste souligné un passage pour qu'on comprenne bien. Ces questions de vocation m'intéressent. Pouvez-vous vous souvenir à quel âge vous avez pour la première fois songé à vous faire prêtre ? Et en regard de ça, le curé qui, dans son long monologue, dit « Oui, je crois que ma vocation l'intéresse. Il s'imagine me prendre au piège, me vaincre, s'il savait, etc. » Et donc on va comme ça sauter d'une page à l'autre pour avoir toute la complexité et pour construire un personnage complexe, dense, et au final c'est un grand livre sur ce que je disais tout à l'heure, la noirceur de l'âme humaine, parce que c'est seulement dans sa confession qu'il explique son geste, mais aussi la religion et la rudesse des conditions de vie dans un petit village à la fin des années 50, ce qu'en fait un roman social très 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 intéressant. Le Grand Scandale, Hubert Gonnet, aux formidables éditions du Chemin de Fer, édition faite avec l'aide de Christy Magnin, qui est une podcasteuse littéraire, qui a une page et un podcast qui s'intitule « Oublieuse postérité », où elle ressort comme ça des tiroirs des auteurs et des autrices oubliées, qu'il faut mettre en lumière.
Le Grand Scandale d'Hubert Gonnet aux éditions du Chemin de Fer, et vous pouvez retrouver Théodore Dillerin à la librairie Le Comptoir des Mots. Vous le reconnaîtrez, c'est Hagrid, beau gosse, avec 200 kilos en moins.
Hagrid, au moins 200 kilos.
Hagrid, c'est évidemment le plus beau personnage dans Harry Potter, selon mon point de vue.
Le plus beau, je suis pas sûr.
Le plus beau dans le sens de la beauté morale. La beauté morale.
Je crois, Ali, je crois.
Non, mais on va avoir 150 lettres d'auditeurs, ça va pas.
10h22, l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odyssey.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino.
Alors, cher Ali, vous avez fait le top 5 de vos chroniqueurs préférés ?
Oui.
J'étais sûre qu'il allait me répondre oui en plus. Et le top 5 des meilleures viennoiseries sans gluten ?
Oui.
Et le top 5 des chansons de Taylor Swift ?
Oui.
Ah non, ça ? Alors ne le faites pas, parce que mon ami d'aujourd'hui risquerait de vous bannir à jamais. J'espère au moins que vous avez l'album de Dylan, Blonde on Blonde. Oui ou non ? Non, non, c'est important. Non ? Oh, non ! Ah non, mais alors là, pardon, mais... Oh oui, mon Dieu, mais c'est grave. Car il ne plaisante pas avec la musique, les chansons. Rob Fleming, trentenaire et propriétaire d'un magasin de disques, le Championship Vinyl, dans un quartier de Londres, où personne ne passe d'ailleurs. Bon. Le héros de Haute Fidélité, le roman de 1995 de l'auteur anglais Nick Hornby, ne rigole pas avec le rock, le pop, le blues, enfin tout mouvement musical qu'il juge audible. Au début du livre, et donc aussi de sa super adaptation au cinéma par Stephen Frears, Rob vient de se faire larguer. Alors, c'est la déprime. Hein. Mais alors, une espèce de déprime assez rancunière. Comment se fait-il que toutes les filles le quittent ? Alors, il repense au top 5 de ses plus grandes ruptures. Et parallèlement, dans son magasin de disques, avec ses deux employés pas piqués des verres, hein, il fait des listes. Alors, les meilleurs solos de guitare, les meilleurs musiciens aveugles, les meilleurs disques pour un lundi matin pluvieux, les 5 meilleures faces A de tous les temps, les 5 meilleures chansons pop parlant de la mort, enfin bon. Et sur sa platine dans son appartement, il écoute en boucle toutes les chansons hargneuses sur les femmes d'Elvis Costello et de Bob Dylan, comme Most of the Time, dont voici quelques paroles. La plupart du temps, ma tête est bien claire, tu parles, la plupart du temps, je suis assez fort pour ne pas haïr. Je ne me fais pas d'illusions à m'en rendre malade, je n'ai pas peur de la confusion aussi épaisse qu'elle soit, je peux sourire à l'humanité. Je ne me rappelle même pas du goût de ses lèvres sur les miennes.
Il serait pas un peu bip, votre ami ?
Ouais, un peu un connard quand même, non ? Ouais, vous n'avez pas voulu le dire, bah oui. Alors, bah si, Ali. Rob, c'est pas un très chic type, et justement, c'est ce qui fait que High Fidelity, donc Haute Fidélité, est un grand bouquin. Un chef-d'œuvre de drôlerie qui est une véritable, d'abord, playlist avec plus de 200 citations sur des artistes, des titres de chansons ou d'albums, mais qui surtout parle incroyablement bien, avec une lucidité mordante, de la peur, de l'engagement et du passage à l'âge adulte. Rob croit avoir tout appris dans les chansons. La vie, l'amour, la poésie, la géographie. Et il juge tout à travers ce filtre. Et il pense très sincèrement que le dialogue avec une fille est totalement impossible si elle écoute du Genesis. Il se prend pour une victime des femmes, car il ne comprend rien aux femmes. Mais comme le héros du génial Bref saison 2, il finit par évoluer. Il devient plus mature et moins affolé par l'avenir et l'amour. Oui, Ali, il peut donc s'inscrire dans le top 5 des plus grands miracles. Un homme capable de changer. Et puis... Et puis, je l'aime aussi quand même, j'avoue, pour ses listes. Tiens, voilà un de mes top 5. Aimer l'actrice Jean Tierney. Rire aux blagues de Ricky Gervais, l'humoriste anglais. Idolâtrer David Bowie. Aimer l'odeur de la pluie. Trouver sublime Catherine Zeta-Jones dans le film de Stephen Frears avec son t-shirt des Pretenders. Et bien sûr, lire Nick Hornby. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, c'est simple, je vous largue.
Julien Bizet.
Non, mais c'est formidable. Le roman, je ne sais pas ce que je préfère entre le roman de Nick Hornby et l'adaptation en film avec John Cusack, qui est incroyable avec son regard de chien battu. C'est formidable. Il y a un passage dans le roman où il parle de la difficulté de bâtir une playlist.
Oui.
Ah bah. Et c'est la difficulté de bâtir une playlist pour offrir un CD à une fille qu'on aime. Et
les mixtapes.
Génial. Les mixtapes, c'est absolument génial. Peut-être qu'on a un peu perdu ça aujourd'hui, mais c'est vraiment formidable.
Ça, c'est l'histoire de notre vie, Mishka Sayas.
Mais c'est pour ça que je ne l'ai pas lu. J'avais peur de retrouver un miroir déformant.
Ah, je sens que...
De me voir comme un monstre.
Lisez Haute Fidélité de Nick Hornby, c'est chez 10-18. Et regardez également le DVD ou Blu-ray. Et avec ça, il faut avoir le dictionnaire du rock de Mishka Sayas à proximité.
Oui, absolument,
le livre de Nick Hornby. Tous les épisodes de l'Ami du Vendredi de Guillemette Odissino sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à célébrer le plaisir d'écouter Bob Dylan. On se retrouve juste après avoir écouté Don't Think Twice, It's All Right, une chanson de Dylan sortie en 1963, 10h28 sur Inter. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road.
I once loved a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright.
Bob Dylan interprété Don't Think Twice, It's Alright.
Ali Rebéi. Oh,
celle-là non plus, vous la connaissez pas ?
Grand bien vous fasse.
Eh, hey, t'as pas des trucs un peu plus modernes dans ton répertoire ? Je sais pas, moi, des chanteurs vivants au moins.
Sur France Inter.
La guitare, les troubadours, tout ça, c'est fini.
Ouais, bon, ouais, ça va,
grand bien vous fasse week-end et nous célébrons le plaisir d'écouter Bob Dylan en compagnie du King Mishka Assayas et du journaliste Julien Bisson. On vient d'entendre l'une de vos chansons préférées de Dylan.
Oui, parce qu'on a souvent une vision de Dylan avec des paroles très compliquées, avec quelque chose vraiment de... On parlait du poète vraiment un peu ardu, mais moi j'ai vraiment une autre relation à Dylan qui est celui qui nous parle de l'amour, et notamment des chagrins d'amour. C'est vraiment, moi, les chansons de Dylan marquent ma vie amoureuse, et notamment marquent l'histoire de mes chagrins d'amour, et des chagrins d'amour très à vif, comme celui-là, dans Don't Think Twice, It's Alright, c'est vraiment un chagrin d'amour à vif, mais aussi des chagrins d'amour, vous savez, qui continuent pendant très longtemps, et dont on se souvient avec mélancolie. Moi, j'adore une autre chanson, par exemple, qui s'appelle Girl from the North Country.
Oui.
Girl from the North Country, c'est vraiment le souvenir de cette femme qu'on a aimée il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on souffre plus autant, mais quand même, il y a toujours une cicatrice qui reste.
Dans le numéro de Légende consacré à Dylan, Christophe Guillemin explique que Dylan, c'est un géant qui chante l'amour comme personne. Vous êtes d'accord avec ça, Mishka Assayas ?
Mais totalement, c'est très juste ce qu'a dit Julien. Il y a des formules. En fait, les chansons, c'est rare qu'on les connaisse intégralement. Il y a toujours, c'est comme la poésie, effectivement, il y a trois vers qui vous fera. Moi, il y en a une qui s'appelle « If you see her, say hello », « Si tu la vois, dis-lui bonjour », où le personnage donc, qu'il incarne dit à un ami « Si tu la croises, dis-lui bonjour de ma part ». Et il y a cette formule où il dit « En fait, j'ai jamais cessé de souffrir, j'ai juste appris à m'anesthésier ». Et c'est des trucs que tout le monde a vécu.
On écoute un extrait.
« Say for me that I'm alright, though things get kind of slow, she might think that I've forgotten her, don't tell her it isn't so. »
Mishka ?
Ouais, c'est sublime, c'est oui. Si elle pense que je l'ai oublié, dis-lui que c'est pas vrai. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de plus simple ? Vous savez, le génie, souvent, c'est le génie de la simplicité qui est l'inverse de la platitude. Et chez Dylan, il y a ça. Et c'est... Moi, je veux dire, j'ai des formules comme ça, j'en ai 30, 40, 50 dans la tête de Dylan. Je suis à la radio, j'ai beau faire ça, je suis inhibé, j'arrive pas à les retrouver, je perds mes moyens. Mais je les ai dans mon cœur, quoi, enfin, vraiment.
Quels sont les leitmotifs, les grands thèmes qui irriguent l'œuvre de Bob Dylan ? Question difficile, je sais.
Très dur, alors là, c'est impressionnant de passer l'oral du bac. Je ne sais plus, enfin, comment dire, si, bien sûr, je peux vous répertorier. En fait, il a repris, vous savez, des chansons de cow-boys, des chansons de marins, des chansons de pirates. Il y a des chansons, en effet, qui sont très proches de la poésie symboliste que sa compagne Suze Rotolo lui avait fait découvrir. C'est-à-dire, en effet, il y a des chansons inspirées de Rimbaud, comme Gates of Eden. On ne comprend pas un mot, mais c'est merveilleux. Et puis, il y a aussi, en effet, des chansons de deuil amoureux. Ça, il y en a quantité.
Et sur le temps qui change aussi, non ? Sur
Ah oui, mais ça c'était en effet, on y a fait allusion tout à l'heure, c'est cette période où il était censé incarner le vent nouveau du changement de la société aux États-Unis, la ségrégation raciale qu'il fallait abolir, etc. Et là, pour le coup, il a été, porté par une sorte de vent nouveau qui est presque un ouragan. Au fond.
Julien Bisson.
Oui, mais c'est ça qui est fascinant avec Dylan, c'est qu'il était à la fois capable de saisir, avoir un terme un peu pédant, le zeitgeist de l'époque,
c'est
vraiment l'esprit
du
temps de ces années 60 où tout est en train de changer. Il arrivait à s'en faire véritablement l'écho et le porte-parole, et en même temps, il a ces grandes chansons totalement intemporelles, intemporelles millénaires. Je veux dire, il puise beaucoup dans les textes religieux, dans la Bible.
Ah oui, beaucoup.
Il y a quelque chose.
L'Ancien Testament, ça c'est sûr, les prophètes, ça, quantité d'images qui viennent de la Bible, Samson et Dalila, etc. Quantité. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'en effet, il est, vous savez, il y a un de ses compagnons de route à ses débuts qui s'appelait Devan Ronk à New York, qui disait ce qui était frappant chez Dylan quand il était jeune, c'est qu'il était comme une éponge. Il absorbait absolument tout. Et en fait, absorber, c'est pas comprendre, c'est pas réfléchir, c'est pas intellectualiser, c'est être frappé par quelque chose et le répercuter sans même... Vous savez, vous êtes traversé comme par une onde et vous savez pas ce que c'est au fond. C'est pas de la bêtise, c'est juste de la sensibilité ultra affûtée.
Et vous évoquez dans votre livre Very Good Dylan Trip, toutes ces métamorphoses,
oui.
C'est-à-dire que de chanteur protestataire, il est devenu poète symbolique,
oui.
Armé d'une guitare, il a même été crooner,
à
la voix douce et apaisante.
Ah, mais ça, c'est quand il a arrêté de fumer.
Et on oublie toutes ces métamorphoses de Dylan.
Mais oui, c'est ça qui me frappe, c'est que, en fait, c'est particulier en France, je ne sais pas pourquoi, on pense que vraiment Dylan, voilà, chanteur de folk. Et puis ça s'arrête là, mais en fait, Like a Rolling Stone, ce n'est pas du folk. Et puis, enfin, il a chanté des chansons de Frank Sinatra il y a une dizaine d'années. Enfin, et puis surtout, en effet, il a eu cet esprit de contrariété, c'est-à-dire que en fait, il a trahi le milieu du folk, après, il a trahi le milieu des hippies contestataires qui imaginaient qu'il allait faire du rock psychédélique, et en fait, il a quelque chose d'archaïque, Dylan, d'intemporel, et il est revenu quand il a fait des albums comme John Wesley Harding, Nashville Skyline, il chante d'une voix qui n'a rien à voir. Mais vous savez, on parle des mots, etc., mais c'est le phrasé chez Dylan qui est important, c'est la diction, c'est le rythme. Et il y a certains rappeurs qui ont considéré que Dylan était leur maître, parce qu'il y a une façon de scander qui est absolument unique. Et en fait, il a imité toutes sortes de chanteurs différents. C'est le propre des grands, ils imitent. Comme Picasso qui a imité toutes sortes. Bon. Et quand il imite, quand il recrée, c'est un génie. Pourquoi ? C'est injuste, mais c'est un génie.
Et Julien ?
Il y a un peintre qui s'appelle Guy Pellaerts, qui avait fait des grandes toiles de toutes les pop stars des années 60-70. Et il y a toute une série de toiles sur Bob Dylan qui sont absolument géniales et qui montrent justement toutes ces nouvelles incarnations de Dylan qu'il a pu représenter et incarner au fur et à mesure des années. Mais ça correspond aussi à ses propres évolutions à lui. On parlait de son rapport à la religion.
Ah, oui.
Il a un rapport à la religion qui a totalement changé au fil des années.
Oui.
Lui, il vient de la tradition.
Il a même chanté devant le pape. Hein,
oui, ça. En fait, il a été
Jean-Paul II.
Il a grandi dans la culture et la religion juive. Il va se réinventer quasiment en born again chrétienne.
Oui, oui.
Et à la fin il y a quelques années, sa grande fierté, c'était de chanter pour le pape. Donc là où lui aussi, il va se réinventer aussi de ce point de vue-là.
Julie Neveu.
Oui, quand vous dites que c'est un génie, c'est aussi un artiste. Ce que vous avez décrit, Mishka Assayas, sur le fait de ne pas intellectualiser, mais juste d'être en fait une chambre de résonance,
c'est
d'écho. C'est l'art en fait. C'est être traversé par l'émotion et la rendre. En fait.
Grégory Cohen.
Moi, je découvre Dylan fin des années 70. Et fin des années 70, pour les auditeurs qui nous écoutent, il n'y a pas vraiment beaucoup de chaînes de télévision. Il n'y a pas de médias d'image en réalité. Donc, on découvre l'artiste d'abord par son son, par sa musique. Et moi, j'écoutais l'ensemble des autres articles. J'écoutais les Stones, j'écoutais Hendrix et compagnie. Et d'un seul coup, j'entends la voix de Dylan. Et j'entends ce type-là et je m'identifie immédiatement à lui. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir un type qui est...
C'est vrai.
Genre, excusez-moi d'être là, je suis là. Je suis anonyme parmi ceux qui font un show complètement démesuré autour de moi. Et d'un seul coup, il commence à chanter et paf, on est capté et il nous embarque dans son univers. Moi, c'est ça qui m'a complètement halluciné chez lui, c'est que c'était moi au milieu de tous ces big rock stars et que c'était incroyable. Après, je l'ai découvert.
C'est très juste.
Évoquons les chansons que vous préférez, Mishka Assayas. Vous avez choisi 5 chansons pour cette émission qui ne correspondent pas aux 5 chansons préférées que vous citez dans Légende.
Mais ça change toutes les 5 minutes.
Ça change toutes les 5 minutes.
C'est le problème des top 5.
Et parmi les titres incontournables, eh bien, il y a la Ballad of a Thin Man.
Ah oui. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand. Ah ouais, ça c'est incroyable. Alors, Ballade of a Thin Man, on pourrait traduire ça par Ballade d'un homme inconsistant. Et c'est la réponse de Dylan à tous ces journalistes qui, au milieu des années 60, voulaient absolument comprendre quel était son message. Alors ça, c'est un truc vraiment d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez voulu dire, etc. Bon, et donc, lui, il dit, mais je sais pas ce que j'ai voulu dire, en fait. J'en sais rien. Arrêtez de m'emmerder. Et donc, il se fout de leur gueule. Il y a un certain Mr. Jones qui est un homme très sérieux qui dit, mais alors là, vous êtes le porte-parole des jeunes, donc vous avez certainement un message sur la politique, sur la société, c'est très important ce que vous dites. Et en fait, il se fout de sa gueule, il dit, bah oui, il se passe quelque chose, mais vous comprenez pas du tout ce qui se passe. Et c'est une manière de dire, c'est même pas la peine que je vous explique, quoi.
Aïda Ndiaye, c'est également votre chanson préférée?
Oui, c'est la chanson que j'ai choisie aussi. Ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est son côté aussi cinématographique. Et oui, c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, mais c'est aussi un personnage de cinéma qui a été beaucoup utilisé au cinéma. Et là, la mélodie est très dramatique, en fait. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est ce côté un peu méga, en fait. Méga cinématique.
Il y a un côté soul dans beaucoup de chansons de Bob Dylan. Il y a un côté musique noire, enfin, dont on parle pas, mais c'est très très présent.
Autre titre, I Threw It All Away.
Ah ouais, ça c'est génial. Love is all it, it makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. Alors, c'est dingue, on a l'impression que c'est un autre chanteur.
Ouais.
C'est ça qui est fou. Et c'est 69, I Threw It All Away, c'est dans Nashville Skyline. C'est 4 ans après ce qu'on vient d'entendre avant. Et ça, c'est, pour moi, alors, c'est, les paroles sont sublimes parce qu'elle chante comme un crooner, il y a une espèce de détachement. Et puis, c'est la chanson d'un type qui dit, bah, j'ai tout foiré, quoi. J'ai tout foiré, j'avais de l'or entre les mains et j'ai fait que des conneries. Bah, tout le monde a passé ça un moment dans sa vie. Enfin, c'est ça. Et ce qui est très important, et ça, ce que disait Grégory est très juste, c'est que Dylan, c'est la voix intérieure. C'est la voix intérieure. Voilà.
I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. Et là encore, c'est le phrasé, et puis cette espèce de pudeur adolescente, c'est-à-dire qu'en fait, il veut dire à une fille qu'il l'aime, mais ça le fait ricaner de dire « je t'aime », il ne peut pas le dire. Donc il dit « je te veux », quoi, voilà. Et donc, il y a une insolence. Julien ?
Oui, on parlait du fait qu'il écrivait sur le deuil de l'amour, mais en fait, il a aussi des vraies chansons d'amour, sur l'envie d'amour. Et celle-là, c'est vraiment une des chansons...
Et c'était pour François Hardy, celle-là. Ouais.
Et on termine avec « Blind Willie McTell ».
Ah ouais. I can hear them drive the morning. Hear that undertaker. Ça, c'est une chanson bien moins connu. En fait, il l'a enregistré dans les années 80. Et c'était une époque où, en fait, Dylan a été rejeté. Enfin, les musiques ont complètement changé. Et donc, il a publié un coffret de chutes, d'inédits et tout ça. Et on a découvert cette chanson qui est une évocation d'un vieux chanteur de blues qui est en train de mourir dans un hôpital. Enfin, je ne sais plus très bien ce que ça raconte, d'ailleurs. Peu importe. Et là, il y a quelque chose, il y a une profondeur. Je pense que c'est un chanteur soul. Il y a quelque chose qui est bouleversant. Moi, quand j'entends ça, c'est comme si j'entendais Otis Redding. Enfin, je trouve ça très, très poignant.
10h43, il est déjà l'heure de retrouver la chronique de notre philosophe Aïda Ndiaye.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors, par où commencer?
Ah oui.
Ali, par où commencer? Pour parler de Bob Dylan, parce qu'il y a un adjectif répété à l'envi pour le qualifier, on l'a dit, c'est insaisissable. Interprète, compositeur, mais aussi prix Nobel de littérature, poète, peintre, écrivain, et puis encore interviewé imprévisible, chanteur engagé pour la paix et pour les droits civiques, born again Christian... Il disait lui-même ne pas être la même personne au coucher qu'au réveil. Et puis il y a aussi les paroles de ses chansons-poèmes, disons, une pierre qui roule sans destination, le temps qui passe, qui change, bref, le mouvement et le devenir encore et toujours. Et ce n'est donc certainement pas un hasard si deux des nombreux films que le cinéma lui a consacrés titrent sur son absence, le tout récent donc Imparfait Inconnu, alors qu'on parle quand même d'une des plus grandes stars vivantes, et en 2017, I'm Not There de Todd Haynes, comme s'il était nulle part, ou plutôt en fait partout à la fois, comme si la vie de Bob Dylan c'était plusieurs vies en une seule. Je contiens des multitudes, disait l'une de ses chansons. D'ailleurs, ce que montre le film de Todd Haynes, en confiant son rôle à plusieurs acteurs et actrices, chacun incarnant un fragment de Dylan à une époque différente.
Oui, pardon, ma chère Aïda, j'avais pas vu votre relance. Qu'est-ce qui le rend insaisissable ? C'est parce que j'étais accaparé par votre discours, cette diversité qu'on n'arrive pas à unifier pour la pensée. Comment fait-on pour saisir cette multitude ?
Oui, c'est quand même ça le problème. Il est où dans tout ça, Bob Dylan ? Alors, si on pouvait l'attraper à partir de ce qui semble pourtant le moins constant, le moins formé, une larve, donc. Oui, vous avez bien entendu, une larve. Je sais,
une
au
larve.
Début, ça peut surprendre, mais vous allez voir. On s'y fait très bien, en fait. Cette notion de moi larvaire, on la trouve chez Deleuze dans Différence et Répétition. Alors, c'est quoi une larve, allez-vous me dire ? Eh bien, ce n'est encore rien et pourtant potentiellement tout à la fois, de la pure puissance, une puissance de transformation ou de la transformation en puissance, si vous voulez. Quelque chose qui se fabrique, qui se métamorphose, qui devient au fil du temps et surtout à travers la répétition de ces différents états. Et c'est très beau, justement, cette idée de la larve et de la répétition, surtout ici, quand on parle de musique. Le mot répétition résonne tout de suite. En musique, la création peut naître de la répétition de ce qui existe déjà, mais toujours dans la différence. Il y a la répétition qui prépare, et puis le concert ou l'enregistrement proprement dit. Et il y a aussi la répétition entre une œuvre originale et celle du passé qui l'inspire. Dylan parle d'ailleurs de vol créatif pour désigner ce processus, et c'est peut-être ce qui faisait dire à Deleuze qu'il aimerait organiser un cours comme une chanson de Bob Dylan. Mais chez Deleuze, la répétition, c'est surtout une manière d'être. Celle de la larve, donc, et peut-être celle de Bob Dylan. Parce que être, ce n'est pas être quelque chose de défini ou de substantiel. Il y a de la répétition dans notre existence, nos habitudes, ce que nous faisons et refaisons, et qui finit par devenir ce que nous sommes sans pour autant jamais être figé. Parce que la répétition n'est pas une simple copie. Chaque répétition est une variation qui introduit une différence, même légère, avec ce qui précède. Et c'est ça qui fait que notre être n'est jamais fixé, mais toujours en transformation. C'est ça, être une larve. Un être, ou plutôt un non-être, malléable, ouvert, perpétuellement changeant, décidément insaisissable.
Mishka, Julien Disson.
Oui, juste pour dire que cette phrase « Je contiens des multitudes », c'est une phrase que de Dylan emprunte à Walt Whitman, le grand poète américain du 19e siècle, et qui a véritablement été une influence très profonde pour lui.
Merci beaucoup Aïda Ndiaye, j'attends avec impatience votre série sur France Culture cet été, consacrée à la grande Bell Hooks. Hein,
oui, à la fin du mois d'août, donc pour les hommes qui veulent changer.
Merci de me montrer du doigt.
Personnage de Nick Ordine, on a parlé
de d'accord. Après les nourritures spirituelles, les nourritures bien terrestres du chef Grégory Cohen. Alors, ce matin, un classique de la cuisine française, la poule au pot. Dès le Moyen-Âge, au Béarn, on préparait cette variante du pot-au-feu. Henri IV aurait dit « Je ferai qu'il n'y aura point de laboureur en mon royaume qui n'ait le moyen d'avoir une poule dans son pot ». Alors, c'est une légende hein, inventée par le précepteur de Louis XIV qui voulait donner Henri IV en exemple à son aïeul. Et en fait, c'est une formule inventée, hein, c'est-à-dire que chaque dimanche, tout le monde est une poule au pot chez soi. Voilà.
Ce qui est plus facile d'avoir une poule en fait que d'avoir un bœuf, parce que le pot-au-feu en fait c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup de morceaux de bœuf différents. La poule au pot, c'est un plat d'eau pauvre qui a un peu évolué. Au début, ça pouvait être une poule bouillie, et puis après on la farcit. Alors c'est une recette un peu coquine, hein, la poule au pot. Je vous le cache pas, parce qu'on va prendre une belle poule fermière, vidée et bridée. Alors bridée, c'est un peu comme du bandage, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit vraiment ligotée.
Je vous rappelle qu'il y a des enfants dans ce studio.
On a besoin.
Et ensuite, j'ai une autre vision de la volaille.
Mais c'est un peu ça, hein, excusez-moi les amis. Mais donc il faut qu'elle soit bien ficelée, en gros. Il nous faudra ensuite des légumes, évidemment, pour faire un bouillon de légumes, des carottes, des navets, des poireaux, du céleri, des oignons, un bouquet garni, du poivre, du sel et un clou de girofle. Le clou de girofle, c'est toujours important. On va le piquer sur l'oignon quand on va le mettre dans l'eau. Pour la farce, il ne s'agit pas de raconter une histoire comme Libio sait très très bien le faire. Mais il nous faudra 300 g de chair à saucisse ou alors du veau ou du bœuf, un œuf, une échalote ciselée, une gousse d'ail, une tranche de pain trempée dans du lait, Et à l'époque, on récupérait du pain rassis, c'est pour ça qu'on le trempait dans du lait, du persil plat haché, du sel et du poivre. Alors, pour préparer la poule, eh ben, on va faire d'abord la farce. On va mélanger exactement tous les ingrédients que je viens de donner et on va ensuite farcir la poule, c'est-à-dire lui mettre dans l'orifice qui est le plus approprié et le ficeler bien pour que la farce ne ressorte pas à la cuisson. Ensuite, on va cuire la poule donc dans une grande marmite, on va la couvrir d'eau froide, on porte à ébullition. On écume soigneusement parce qu'à chaque fois, il va y avoir des impuretés qui vont monter, donc on veut un bouillon clair. On va ajouter le bouquet garni, le poivre, l'oignon, le gros sel et on le laisse cuire à frémissement pendant 1h30. En fait, le principe du pot, quand on parle du pot au feu ou alors de la poule au pot, c'est qu'en fait, ce sont des cuissons lentes dans des grosses marmites. Ensuite, au bout d'1h30, on ajoute toutes les autres légumes. On poursuit la cuisson ce coup-ci à feu doux pendant 1 heure supplémentaire. On vérifie la cuisson de la viande, donc la poule doit être bien tendre et les légumes fondants, mais pas en purée. Et c'est terminé. Ensuite, on dispose la poule découpée en morceaux dans un gros plat creux. On ajoute les légumes et alors on peut mettre le bouillon évidemment à part. Et là, si on veut que ce soit le plat préféré de Bob Dylan, on va rajouter des matzah balls et on aura un bouillon de poule avec des boules de matzah. Sinon, on peut mettre des vermicelles ou alors du riz.
C'est quoi ça, des boules de matzah?
Le matzah, c'est du pain azim qu'on va mélanger avec de l'œuf. Là, il y avait la fête de Pâques il n'y a pas très longtemps. Le pain azim mélangé avec de l'œuf, on le met dans le bouillon, ça gonfle et c'est le plat préféré de Bob Dylan.
Et je précise que l'historienne Marie-Hélène Bellac nous rappelle qu'en réalité, la poule restait un mets d'exception dans les campagnes d'anciens régimes. Elle nous rappelle l'un de ses très beaux livres qu'on ne tue la poule que lorsqu'elle ne pond plus. Donc le plat était quand même relativement rare à l'époque.
Ok.
Merci beaucoup.
On peut dire ça aussi.
Merci beaucoup Grégory Cohen. On peut retrouver la recette sur l'appli Radio France et sur votre compte Instagram Grégory Cohen off avec
deux F.
Et dans un instant la chronique de notre linguiste Julie Neveu avec la langue. On se retrouve juste après avoir écouté Iliona, Lâche-moi la main, 10h51 sur France Inter.
C'était juste des passages. De toute façon, c'est pas comme si je t'aimais, genre grandiose. J'ai compté toute la journée les insultes que je dirais jamais. Si les gens se montrent souvent, je me demande comment t'étais avant moi. Je passe mes nuits à regarder des gens danser sans se moquer. Mais je passe ma vie à réparer mon cœur. Mon cœur, je m'ennuie. Je veux plus écrire sur toi. Qu'on gardera de tout ça. Parfois je te mens, ou je te dis tu me manques. Et c'est triste, on se tire par le bras, on se pique, et ça peut pas être un poids. Parfois je me demande ce qu'on gardera de tout ça. Parfois tu me manques, et moi je te dis pas.
Iliona interprétée Lâche-moi la main.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Enfin, pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, Julie Neveu, votre ambition est immense ce matin avec la chanson Blowing in the Wind. Vous voulez nous montrer pourquoi Bob Dylan est un poète.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Alors, how many roads must a man walk down? Combien de chemins un homme doit-il parcourir? A man, c'est-à-dire n'importe quel homme, en fait, Ali, et n'importe quelle femme aussi, parce qu'en 1962, c'est le mot homme qui représente encore tous les humains. Bref, Dylan, à cette époque, dans cette chanson en tout cas, parle au nom de tous. Et c'est la définition littérale du prophète, celui qui parle au nom d'eux. Donc les chemins, c'est prosaïque, on voit bien, on projette l'expérience physique, et hop, direct, on passe à la blanche colombe. Combien de mers une blanche colombe doit-elle traverser? En fait, Dylan dit « sail ». Combien de mers une blanche colombe doit-elle naviguer? Et là, hop, c'est le miracle de la poésie. Suspension du sens ordinaire, parce qu'une colombe, bah, ça ne navigue pas. Et densité imaginaire. La colombe, c'est quoi finalement? C'est la paix, c'est un bateau, c'est le voyage, c'est l'espoir. Mais l'espoir dort sur le sable, peut-être qu'il est mort. On sent la lassitude avec les débuts répétés, cette anaphore. How many, combien de routes, combien de mers? Et le poids aussi, le poids que porte le verbe must, c'est un modal. Must, c'est le devoir, la lourdeur, la charge. C'est le poids des structures sociales et idéologiques dont on hérite. En fait, c'est tout le système de discrimination raciale. Et derrière, juste derrière must, après tous ces must, on a l'évocation fugitive des possibles. Un jour, mais quand? Les possibles qui sont soit autorisés par le système, be allowed, être autorisé, soit de libération, d'émancipation par une prise de conscience. Combien de fois un homme doit-il regarder en l'air avant d'être capable de voir le ciel? En fait, toute la chanson alterne entre le poids intolérable de ce qui est donné en héritage et la possibilité d'en prendre conscience, de réveiller nos sens. Blowing in the Wind est en fait une chanson woke, mais au sens premier, hein, pas galvaudée et retournée du terme. Une chanson qui provoque l'éveil, le réveil. Combien d'oreilles un homme doit-il avoir avant d'entendre les gens pleurer? On bascule du concret au poétique et au sensible. Les mots sortent de leur fonctionnalité. Ils ne servent plus à décrire bêtement notre anatomie. On sait bien qu'on en a deux, des oreilles. Non, mais là, les mots font appel à nos sens. La vue, la sensualité de la colombe blanche, l'ouïe, avec ces mots qui redeviennent son et matière, avec cette allitération, c'est-à-dire le son qui se prolonge de son sommeil. She sleeps in the sand. Et puis, tous ces pluriels poétiques, les cieux, les mers, quand il ne s'agit plus de compter, en fait, mais d'élargir l'horizon de nos pensées, les portes de la perception, disait le poète et prophète William Blake, et puis après bien sûr les Doors. La poésie, c'est quand on gonfle la réalité pour en rendre le poids. C'est l'hyperbole qui ouvre vers l'émotion, le ras-le-bol, le trop-plein. En fait, Ali, c'est possible meilleur, c'est des utopies. Des lieux désirables qui n'existent pas. Et si Blowing in the Wind est une chanson bouleversante, enfin moi elle me bouleverse, c'est qu'elle fait rêver d'utopie, du sable, où se pose ou se repose la colombe. Pour Jean-Jacques Le Cercle, c'est mon prophète à moi, l'utopie, c'est d'abord une pulsion de non. Par où on s'affranchit du déjà-là, on dit non, en rêvant d'ailleurs, on rejette le système, et c'est par là seulement qu'on devient soi-même. Parce que si la chanson est à la fois si douce et inspire la révolte à la fois, c'est que le non, il est un souffle, mais un souffle donc poétique, il n'est pas dit directement, c'est tout sauf une chanson à message, comme Dylan le répétait. Elle dit non, mais en posant les questions. Elle dit non, en semant le doute. La réponse n'est pas donnée, elle souffle dans le vent. Et le vent, c'est quoi? Bah, en fait, c'est le mouvement à l'état brut, la vie, être jeune, se secouer du vieux monde, en imaginer un autre plus doux.
On a le droit d'applaudir ou pas?
Mishka Zayas.
Ah bah c'est tellement bien dit. Moi, je peux que souscrire. Il y a une chose qui me frappe effectivement dans ce que vous avez dit, c'est que en fait les images sont toujours un peu déformées chez Dylan. Et il y a un exemple de ça, c'est la chanson All Along the Watchtower, parce que une tour, on en fait le tour, on tourne en rond, et tout au long d'une tour, ça ne veut rien dire en fait. Tout au long de la tour de guet, qu'est-ce qu'il veut dire quoi? Enfin, on fait combien de fois le tour quoi? Donc c'est.
Et c'est dès que ça veut rien dire que ça projette dans la méditation. Et
la chronique avec la langue de Julie Neveu à podcaster sur l'appli Radio France. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Week-end. Merci aux amis du vendredi, Julie, Guillemette, Aïda, Grégory et Théodore. Merci beaucoup Mishka Sayas.
Merci infiniment.
Very Good Dylan Trip, c'est publié aux éditions GM et France Inter. Et on vous retrouve évidemment lundi dans Very Good Trip à 21h. Merci Julien Bisson, le très beau légende consacré à Bob Dylan est disponible en librairie ou sur le site légende-lemag.fr. www.radioscoop.fr. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Joseph Ascal et Cyrine Benyounès, avec l'aide d'Antoine Poitras et de Margot Bunia, à la réalisation Maria Pasquet et Mathias Volant, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, qui veut la peau du Nutri-Score ? Le Nutri-Score, ce système qui nous permet de faire les bons choix alimentaires et que de nombreux industriels de l'agroalimentaire aimeraient voir disparaître.
Danone.
Et nous recevrons... Oh là, vous allez avoir des ennuis. Nous recevrons son créateur, Serge Erkberg.